Gloire au Seigneur. Voilà, ouvrons ensemble le Saint-Livre. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore cet après-midi, d'avoir chanté ces cantiques qui, je le pense, préparent notre cœur à la parole de Dieu. Nous lisons donc dans Actes, au chapitre 20 et à partir du verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui ». Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore, jusqu'au jour. Après quoi il partit, le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. L'apôtre Paul poursuit son voyage missionnaire. Quelque temps avant, il était à Éphèse. Ça a été un peu mouvementé pour lui. Et l'épisode que nous venons de lire se situe à Troas. Et comme à son habitude, l'apôtre Paul partage la parole. Et c'est ce que nous faisons cet après-midi. Nous ouvrons le Saint-Livre et nous partageons la parole. Nous essayons, au travers de ces quelques versets, de ressortir un enseignement pour nos vies. Et la Bible nous dit qu'il était là avec les disciples et qu'un des disciples se nomme Eutychus. Et c'est Eutychus qui va nous enseigner cet après-midi. La Bible nous dit, et peut-être vous êtes accoutumés à lire ce texte, vous connaissez ce passage, qu'Eutychus était assis sur la fenêtre. Alors, je pense que toutes les personnes qui étaient présentes ont dû lui dire quelque chose à Eutychus. Non, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que les disciples, je pense que Paul peut-être, ont dû lui dire, mais Eutychus, ne t'assois pas là. Eutychus ne reste pas là. Et quand je dis que cet après-midi, au travers d'Eutychus, nous allons être enseignés, c'est parce que je pense que quelque part nous pouvons lui ressembler. Vous savez, écouter les conseils des autres, quelquefois ça ne nous intéresse pas vraiment. Parce que, non pas qu'on ne veut pas les écouter, mais parce qu'on se dit qu'ils ont tort, ou peut-être parce qu'on s'imagine que cela ne va pas nous arriver. Eutychus peut-être a dit « Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tomber, je veille ». Eutychus a peut-être sorti tout un tas d'arguments, toujours est-il, c'est qu'il n'a pas changé de place, et la Bible nous dit qu'il s'est installé là. Et bien des fois, dans notre existence, nous lui ressemblons sur ce point, c'est que nous avons été assis entre deux, finalement. D'un côté, la parole de Dieu, et de l'autre, l'extérieur. Peut-être même cet après-midi, pour quelques personnes, vous êtes là, et dans votre cœur, vous partagez les sentiments d'Eutychus, vous écoutez la parole de Dieu, vous venez à l'église, mais dans votre cœur, il y a quand même un regard vers l'extérieur. Et je ne vous apprends rien lorsque je vous dis qu'on peut être physiquement à un endroit, présent cet après-midi, mais notre cœur peut être tellement loin, en train de voyager dans nos pensées, en train de réfléchir à tout un tas de choses. Vous savez, ce sentiment n'est pas nouveau dans la parole de Dieu, parce que déjà le prophète, inspiré par Dieu, disait cela au peuple, et c'est Dieu qui parle au peuple, en disant « Il n'est proche de moi qu'en parole ». C'est Ésaïe 29 qui nous dit cela. Mais de cœur, il est loin de moi. De cœur, il est loin de moi. Et je ne pense pas que lorsque Eutychus est assis sur le rebord de la fenêtre, il savait ce qui allait se passer pour lui. Je pense qu'il était dans cette assurance de se dire « mais ça va aller, peut-être comme les autres fois ». Toutefois, on ne peut pas savoir dans notre vie. On ne maîtrise pas pleinement, même pas du tout, notre vie. On peut être habitué à faire certaines choses, ce n'est pas pour autant qu'elles vont se dérouler comme toutes les autres fois. Et Eutychus représente ces personnes qui ont du mal encore à se positionner, qui ont du mal à choisir. D'un côté la parole et de l'autre le monde. Et ce qui va arriver nous amène toujours plus loin avec Eutychus parce que la Bible nous dit, et peut-être qu'on aurait fait pareil, que Eutychus va s'endormir d'un profond sommeil pendant le long discours de Paul. Et ce qui est surprenant, nous l'avons lu ensemble, c'est des choses peut-être que vous connaissez très certainement, c'est qu'il n'y avait pas de raison de s'endormir. Parce que dans ce lieu, il y avait beaucoup de lampes. On l'a lu ensemble. Ça veut dire, si le Saint-Esprit qui a écrit la parole, qui veut nous enseigner cet après-midi, ça veut dire qu'il n'y avait aucune raison apparente pour que Eutychus s'endorme. Maintenant, on comprend au travers de sa vie que c'est ce qui nous guette, c'est ce qui va nous arriver, c'est ce qui tôt ou tard nous arrivera dans notre vie si nous demeurons toujours assis sur le rebord de la fenêtre, pas dans la pièce complètement et non plus pas à l'extérieur complètement. La lumière, vous savez, c'est Jésus-Christ dans la parole. Et il y a cette réalité que la parole de Dieu nous révèle, et cet après-midi que peut-être le Seigneur veut appuyer encore une fois pour certaines personnes, d'une manière personnelle, profonde, c'est que si on ne s'approche pas de la lumière, si on ne vient pas au bénéfice de la lumière, alors la lumière de Jésus-Christ ne pourra jamais avoir d'effet dans notre vie. Ce jour-là, il n'y avait aucune raison que Eutychus s'endorme. Et on peut transposer ça, vous savez, les enseignements, ce qui est arrivé à Eutychus, c'est un enseignement au niveau spirituel. Eutychus n'aurait jamais dû tomber. Eutychus avait tout à disposition. Et dans notre vie, combien de fois nous sommes au bénéfice de la parole de Dieu, combien de fois nous entendons prêcher l'Évangile, nous chantons des cantiques qui nous amènent à considérer ce que Jésus-Christ a fait. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous nous retrouvons ici, la lumière est allumée, sans jeu de mots. Jésus-Christ est présent, parce que Jésus-Christ veut toujours éclairer notre vie, veut toujours éclairer notre sentier, veut toujours éclairer son chemin, parce que la Bible nous dit que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et Eutychus ne va pas être intéressé par ça. Vous savez, l'Évangile, on ne pourra jamais forcer quelqu'un à accepter l'Évangile. On ne pourra jamais obliger à quelqu'un à dire « mais accepte Jésus-Christ, accepte ce qu'il a fait pour ta vie ». Et Eutychus nous montre, c'est là un exemple extraordinaire dans la parole de Dieu, d'une personne qui était au bénéfice de la parole, au bénéfice de la lumière, mais qui va passer à côté de cette lumière. Et naturellement, si je puis dire, le mot est mal choisi, mais on voit que finalement, ce qui arrive, c'était inévitable dans sa vie. Combien de fois, bien-aimés, nous avons vécu, et peut-être c'est ce que quelqu'un est en train de vivre cet après-midi. On passe à côté de la lumière, on ne veut pas. Pour l'instant, on se dit « on verra demain ». Oh, c'est des choses que j'ai déjà entendues. C'est des choses qu'on m'a déjà expliquées. Je verrai plus tard. Et la Bible nous dit qu'entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas. Et on peut essayer de le calculer comme on veut, de chercher une explication dans notre existence si on transpose ce qui est arrivé à Eutychus dans notre vie d'une manière personnelle, mais on ne pourra jamais arriver à une autre conclusion qu'est celle-ci, c'est que le péché nous endormira toujours du sommeil de la mort. Le péché nous plongera toujours dans un sommeil spirituel. Le psalmiste, à un moment donné de sa vie, pourra dire, comme une prière qu'il adressera à Dieu, « Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Et si Eutychus avait fait cette prière, laissez-moi vous dire que ce jour-là, il ne se serait pas endormi. Si nous, dans notre vie, peut-être pour certains, bien avant, quelques années en arrière, si nous avions eu le privilège de faire cette prière, ça nous aurait évité bien, bien des difficultés. Parce que le salaire du péché, la Bible nous dit que c'est la mort. Donne à mes yeux, et peut-être que cet après-midi, quelqu'un a besoin de faire cette prière pour que nous puissions non pas voir la lumière du monde, mais la lumière de Jésus-Christ, pour qu'elle puisse éclairer notre vie, pour que nous puissions voir la réalité de notre âme et de notre cœur, pour que nous puissions lui dire « Seigneur, sauve-moi, je n'ai pas envie de m'endormir du sommeil de la mort ». Vous savez, Eutychus nous enseigne parce que ce qu'il va faire ce jour-là, c'est ce que moi j'ai fait à un moment donné de ma vie. Et si on faisait un tour cet après-midi, si on demandait à des personnes de rendre témoignage, beaucoup pourraient dire cela. Le sommeil spirituel, ce que le péché produira et produit dans notre vie, ça sera toujours une chute dans notre existence. Ce que le péché produit, ce qui nous fait dégringoler. Le péché ne nous amènera jamais à la vie, ce n'est pas possible. Le diable voudrait nous faire croire que finalement, s'endormir aux choses de Dieu, ça va nous amener du bien-être, la tranquillité. Le diable voudrait nous faire croire qu'après tout, on peut se passer de la lumière parce que lui se propose de nous éclairer, mais c'est faux. Et ce qui s'est passé pour Eutychus ce jour-là, c'est ce qui se passe peut-être pour quelqu'un, c'est ce qui s'est passé, je le répète, dans une période de ma vie. Lorsqu'on refuse la lumière, il y a la chute. On se souvient de ce passage qui se trouve dans la Genèse, qui raconte la chute de l'humanité. Adam et Ève étaient là. Ils pouvaient jouir d'une communion parfaite avec Dieu, Dieu créateur. C'est lui qui les avait créés, il avait tout prévu. Seulement voilà, ils ont préféré endormir la voix de Dieu pour écouter la voix du diable. Le péché fera toujours ça. Le péché essaiera toujours de produire en nous cela. Ce qui nous amène à la vie d'Eutychus, parce que la Bible va aller loin, très loin même. Ça vous a jamais choqué ? Quand il est écrit, il tomba du troisième étage en bas. S'il y a des professeurs de français, peut-être vous allez dire, mais c'est un pléonasme. Si on tombe, c'est forcément en bas. Vous y avez pensé. C'est surprenant. Mais vous voyez, pourquoi c'est écrit ? Parce que des fois, dans notre vie, il y a des chutes dont on peut se relever. C'est vrai. Il y a des parcours de vie, des expériences que nous faisons malheureuses, et on tombe, mais on arrive à se relever. Le monde dit, mais ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Mais ça, ce n'est pas ce que Dieu dit. Et alors, peut-être que Eutychus, d'autres fois, dans d'autres périodes de sa vie, il avait déjà connu des chutes. Et je vais l'imager comme ça pour que vous puissiez comprendre ma pensée. Peut-être qu'il était tombé du troisième étage, mais arrivé au deuxième étage, il a su se rattraper. Peut-être qu'il est tombé du troisième étage et là, in extremis, il arrive au premier et il arrive à se rattraper. On peut se relever. Et quand on se relève, on a encore l'audace de penser que c'est grâce à nos propres forces. Mais il y a des chutes dont on ne peut pas se relever. Et vous savez, le péché dont parle la parole de Dieu, c'est cette chute-là. C'est une chute où lorsqu'on tombe, on tombe jusqu'en bas, où on est laissé à terre, où on ne pourra pas se relever. Parce que ce qui peut nous relever d'une chute spirituelle, ce n'est pas nos propres forces. Ce qui peut nous amener à être secouru par le Seigneur, le Créateur de l'univers. Ce n'est pas notre bonne manière de vivre, notre bonne morale. C'est notre humilité, c'est la repentance. On l'a dit au début, en commençant ce message, Eutychus, il n'a pas voulu écouter. Ce n'est pas écrit, mais on peut supposer qu'il n'a pas voulu écouter les conseils. Et je ne sais pas si Eutychus, lorsqu'il était assis, lorsqu'il disait peut-être aux personnes, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller pour ma vie, il s'imaginait que quelques instants plus tard, il se serait retrouvé à terre comme mort. Et c'est là l'image du péché. Je le répète, mais excusez-moi, parce qu'il n'y a pas d'autre explication. La Bible révèle ce que nous sommes, révèle le cœur de l'homme. Et vous savez, si le péché nous endort, ça ne sera jamais, jamais, jamais pour nous donner la vie. Combien de personnes aujourd'hui se retrouvent à terre? Combien de personnes qui sont venues dans ce lieu? Combien de personnes qui ont entendu l'Évangile, qui ont chanté les cantiques que nous avons chantés et qui aujourd'hui se retrouvent encore à terre parce qu'ils n'ont pas voulu de Jésus-Christ? Parce qu'ils n'ont pas voulu répondre. C'est ce que nous a dit Nicolas lorsqu'il présentait les chants. S'il y a une bonne nouvelle, et alors il faut répondre à cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle attend une réponse de notre part. Et combien de personnes n'ont pas voulu répondre et aujourd'hui sont à terre? Mais vous savez, si j'arrêtais maintenant le message, ce serait bien triste et ce ne serait pas la vérité. Ce ne serait pas la vérité. Le diable aimerait nous faire croire que lorsqu'on est à terre, c'est fini. L'ennemi de nos âmes aimerait nous faire croire, le même qui a raconté des mensonges à Adam et à Ève, le même qui est à l'origine, le même qui est venu tenter Jésus-Christ, voudrait nous faire croire que si aujourd'hui nous sommes à terre, Jésus ne peut plus rien pour nous. Mais c'est faux. Parce que l'Évangile, c'est cela. L'Évangile, c'est exactement cela. C'est alors que nous sommes à terre, alors que nous sommes comme morts, alors que peut-être les hommes sont venus lorsqu'ils ont vu l'état dans lequel nous nous trouvons, lorsque notre entourage voit l'état d'angoisse dans lequel nous nous retrouvons, les pensées morbides qui nous habitent. Les hommes essayent de nous relever, mais le seul constat qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils nous relèvent déjà morts. Et Jésus-Christ vient nous chercher dans cet état. Jésus-Christ a dit, mais je ne viens pas pour les bien portants, je ne viens pas pour ceux qui pensent, qui s'imaginent que tout va bien pour eux, je ne viens pas pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas de péché, qu'ils n'ont pas besoin de sauveur. Jésus a dit qu'il venait. Et je paraphrase, excusez-moi, mais vous comprenez la pensée. On pourrait dire cet après-midi que Jésus vient pour tous ceux qui sont à terre. Pour toutes les personnes qui ont peut-être manqué à un moment donné l'appel du Seigneur qui venait dans leur vie, qui n'ont pas prêté attention à cette lumière qui brillait sur leur sentier ténébreux, qui se retrouvent à terre, Jésus-Christ vient pour vous chercher alors que vous êtes à terre. La Bible nous dit que là où le péché a abondé, vous connaissez ces textes, la grâce de Dieu a surabondé. Jésus, ça sera toujours le seul qui peut nous relever de notre péché. Ça sera toujours celui qui viendra pour nous tendre une main. Et je termine avec cette pensée, vous savez ce que l'apôtre Paul va faire ce jour-là. C'est une image extraordinaire de ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous. Parce que notre vie intéresse Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que notre vie intéresse celui qui a créé la terre et le ciel, celui qui a créé les animaux, celui qui a créé la vie, celui qui a créé toutes choses, celui qui tient le monde dans sa main, est intéressé par notre vie, est intéressé par notre éternité, est intéressé par notre bonheur, est intéressé par ce que nous vivons, ce que nous sommes en train de vivre. La Bible nous dit que l'apôtre Paul va descendre. Il va se pencher sur lui et va le prendre dans ses bras. Il va descendre, il va se pencher sur lui et le prendre dans ses bras. Il y a ce texte dans la parole de Dieu pour étayer un peu ses propos. À un moment donné, vous savez, un des disciples est là. Les pharisiens ont vu ce qu'il a fait, ils ne sont pas contents. et il va se mettre à parler inspiré par le Saint-Esprit. Et il va faire un résumé extraordinaire de l'Ancien Testament. En quelques versets, il raconte tout ce qui s'est passé, les promesses de Dieu. Et il va dire à un moment donné, en parlant de Dieu, il va rappeler cette parole de Dieu qui se trouve dans l'Ancien Testament. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu du Nouveau Testament. C'est déjà le Dieu qui se souciait de l'humanité. C'est le même Dieu qui se soucie de ta vie. C'est le même Dieu qui voit lorsque tu es à terre et qui veut te tendre les bras pour que tu puisses être relevé, non pas par tes propres forces, mais par le prix de son sacrifice à la croix. Et alors, Étienne, à un moment donné, va dire, pour parler, exprimer ce que Dieu avait sur son cœur, parce que ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une théologie de plus, c'est ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Dieu pourra dire à un moment donné, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Je suis descendu. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est venu sur le bois de la croix, donner sa vie, accepter que ses mains soient percées, que ses pieds soient percés, que son sang a coulé, c'est parce que dans son cœur, il y avait exactement ces mêmes choses. Il est descendu. La Bible nous dit qu'il a traversé les cieux pour venir jusqu'à nous. La Bible nous dit, et je le dis en reprenant ce que l'apôtre Paul a fait, il s'est penché sur nous, ça veut dire qu'il se soucie. Il se soucie de ce que tu es en train de vivre, il se soucie de ton quotidien, il se soucie de tes difficultés, il se soucie de ce péché qui te tient captif, qui t'oblige à vivre comme un esclave. Et il te prend dans ses bras. Ça veut dire qu'il nous offre son amour. Voilà ce que Jésus-Christ a fait. Voilà ce qu'il se propose de faire encore cet après-midi pour une personne qui peut-être en a marre de faire chute sur chute, de trébucher, d'être comme mort à terre, d'être sans espérance. Voilà ce que Jésus-Christ se propose de faire, parce que lorsqu'il était sur la croix, il pensait à chacun d'entre nous. Ce passage se termine, l'apôtre Paul va dire, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » La version parole de vie pourra dire, « Ne soyez pas inquiets, il est vivant. » Et je pourrais dire, paraphraser, sans aller au-delà de l'écriture, vous me comprendrez, que la vie que Christ nous donne, c'est une vie sans inquiétude, sans trouble. C'est une vie où il se propose d'être avec nous tous les jours, jusqu'à ce qu'il revienne. Parce que Jésus sait très bien qu'à un moment donné, on devra tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et il vaut mieux qu'on soit du bon côté ce jour-là. Il vaut mieux qu'on ait Jésus-Christ comme avocat, comme ami. Il vaut mieux qu'on soit au bénéfice de cette alliance. On peut prier le Seigneur ? Seigneur, merci. Merci pour ce que tu nous rappelles encore cet après-midi. Seigneur, trop de fois peut-être nous avons chuté. Trop de fois nous avons négligé ta parole. Nous avons négligé la lumière que produit ta parole. Trop de fois nous avons été sûrs de nous-mêmes. Trop de fois nous avons cru que par nos propres forces nous pouvions y arriver. Et Seigneur, le résultat est là. Seigneur, peut-être des bien-aimés sont à terre, sont comme morts, écrasés par la culpabilité, par le péché. Et Seigneur, ce passage que nous venons de lire, ce texte, est là pour nous rappeler ce que tu as fait sur le bois de la croix. Et je crois que cet après-midi, tu veux te pencher sur quelqu'un pour le prendre dans tes bras d'amour. Je crois que cet après-midi, tu veux restaurer une vie, tu veux bénir une vie. Tu veux nous amener à ne plus nous troubler, ne plus nous inquiéter, parce que c'est toi qui vis en nous, c'est ce que tu nous proposes. Merci parce que tu veux le faire. Merci pour tout ce que tu nous promets, pour cette alliance qui est là devant nous. Seigneur, reçois notre louange, notre adoration pour cela. Merci encore pour ton sang qui nous purifie de tout péché. À toi soit toute la gloire, Jésus-Christ. Amen.